Magazine.
Je sais plus ce qu'il faut dire.
Magazine.
Ça va aller, ça va passer.
Je vais pas y arriver.
Le magazine du collège André Gide.
Bonjour à toutes et à tous. Comment ça va?
Oui, oui.
Bonsoir.
oui. Bonjour. Alors, je t'en prie.
C'est... Désolé, c'est la première fois que j'anime. Ouais. Ça va être un peu compliqué.
Ça va être compliqué, voilà. Mais on va s'en sortir.
Oui, on va y arriver.
Comment t'appelles-tu?
Elliot.
Eh bien, c'est Elliot qui nous présente donc ce magazine du jour. Qu'est-ce que c'est magazine? Qui est autour de la table, etc., oui, etc. Vas-y, je t'en prie. Raconte-nous un peu tout.
Alors, il y a Louis à ma gauche. Mm-hmm. Comment ça va, Louis?
Alors, il n'y a pas de micro, Louis.
Voilà. Ça va et toi?
Oui.
Oui, bien. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui?
Des femmes scientifiques.
D'accord. Bonjour, Dylan.
Okay. Oui.
Comment ça va?
Ça va très bien, et toi?
Tu vas nous parler de quoi?
De Black Panther. Mmh.
C'est quoi Black Panther?
C'est un film. C'est un film de super-héros.
D'accord. Et. Je vois Enzo là-bas, autour de notre
Bonjour.
Table. Bonjour. Comment ça va?
Ça va très bien.
Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui?
Alors moi, de l'origine des Jeux Olympiques et de la prochaine édition en 2024 à Paris.
D'accord, ça promet d'être intéressant. Et Jean, tu vas nous parler de quoi?
L'aéronautique française.
D'accord.
C'est bien.
Et puis il y aura aussi Lilou et Jade qui viennent de nous rejoindre juste à l'instant. On va leur donner un petit micro pour qu'elles nous disent bonjour et comment elles vont bien.
Bonjour.
Comment ça va bien?
Ça va, ça va.
Oui, ça va, ça va.
Oui, ça va, ça va.
Et Jade, bonjour.
Bonjour.
Ça va, Jade?
Oui.
Oui, tout le monde va bien, c'est formidable. Oui. Alors,
c'est formidable.
Alors, qu'elles vont nous parler, les filles?
Alors, vous nous allez parler de Laurent Douin qui... Laurent Douin?
Oui, on va parler de Laurent Douin.
Uh-huh.
Et aussi, vu qu'on n'a pas eu le temps de finir la chronique, on va improviser parce que du coup, quand on a fait la chronique, on n'avait pas marqué ce que nous, on avait fait.
Uh-huh. Ok, donc ça, c'est un peu à l'arrache, un peu sur le tard, mais c'est pas bien grave. Je te laisse enchaîner, cher ami.
Alors, on va commencer par Dylan et il va nous parler de Black Panther.
Youhou !
Magazine !
Sur Radar.
Bonjour à tous, à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler de Black Panther. Black Panther est un film de super-héros américain sorti en 2018. Pardon. C'est un Marvel. Black Panther est le roi de Black Panther. Il s'appelle T'Challa. Le costume de Black Panther est constitué d'une matière spéciale qui absorbe les chocs pour le renvoyer. Il protège donc son royaume car il possède la matière première du costume. C'est pour cela que le royaume est convoité. C'est un film d'action que j'aime beaucoup. En novembre 2022, la suite est sortie au cinéma. Mais je ne l'ai pas encore regardée. Alors, vous allez nous dire. À bientôt pour une autre chronique.
Eh ben, merci Dylan pour nous avoir parlé de Black Panther. Est-ce que vous avez vu Black Panther autour de la table?
Oui.
Oui, il l'a vu, Jean. C'est T'as vrai. Vu les deux?
Ouais, les deux.
D'accord.
C'est pas, c'était sympa.
Bah oui,
c'est... Ouais, c'est du délire futuristique, donc faut aimer, mais...
Ouais, c'est très fond vert, etc. Il y a vachement d'effets spéciaux.
Ouais, c'est pas mon style.
Voilà, ouais. Bon, par contre, tu disais donc la matière première qui fait les costumes, c'est pour ça qu'ils sont convoités, enfin que la planète... c'est Wakanda, hein, normalement.
C'est Wakanda,
ouais. C'est Wakanda.
Oui, en Afrique.
Et donc voilà, c'est pour ça, en fait, ça c'est une. Je vais compléter un petit peu ta chronique. C'est une sorte de métaphore. Vous chercherez dans le dictionnaire ce que ça veut dire sur l'Afrique et l'exploitation des ressources africaines. Alors africaines, le continent, hein, pas le pays, parce que c'est pas un pays l'Afrique.
Oui, non.
Et oui.
Et je vois du coup, si je me trompe pas d'ailleurs, la matière convoitée, c'est du vibranium, c'est le même, c'est
oui,
exactement
ça
pareil.
Ça peut affaiblir les Power Rangers, pas non.
Par exemple, les
Power Rangers.
C'est pas Marvel les Power Rangers.
Ah non. Pourtant, ça, des fois, ça va un peu. Hein.
Et une autre petite précision aussi, le héros principal de la première édition, enfin du premier film, est décédé d'un cancer. Et donc, je ne sais pas ce qui s'est passé par la suite dans le 2. Est-ce que tu, sans nous spoiler, qui est devenu roi au final? C'est la reine?
C'est toujours lui.
C'est toujours lui?
Ouais.
Ah, donc il a tourné le 2 avant de mourir?
Non, en fait, ils ont changé d'acteur.
Ah, ils ont changé d'acteur, oui. Ouais. Non, mais voilà. Donc,
oui, ils ont, en fait, ils ont juste changé d'acteur pour le 2.
Ça marche. Merci d'accord. pour cette précision, mon ami Jean. Merci, Dylan, pour cette chronique. On enchaîne, cher ami?
On va enchaîner par Louis et moi pour parler des femmes scientifiques.
Ah, les femmes dans la science.
Magagilde.
Sur Radar. Bonjour. Aujourd'hui, on va vous parler des femmes scientifiques. On commencera par vous parler du projet au sein du collège sur les femmes scientifiques du XVIIIe siècle au XXe siècle. Puis on donnera l'exemple de deux femmes en particulier.
L'idée est venue... Ah, attends, il y a personne au bout du fil. Qu'est-ce que c'est ?
Pardon.
L'idée est venue des professeurs de sciences physiques qui se sont rendus compte qu'on connaissait les travaux et prix Nobel d'hommes, mais qu'on ne connaissait pas forcément ceux de femmes. Des classes de 4e ont participé à ce projet avec leurs professeurs d'histoire et de sciences physiques.
Alors, par exemple, Maria Goeper est née le 28 juin 1906. Elle a démontré théoriquement l'existence de l'absorption de deux photons. Pardon. Elle a reçu le prix Nobel de physique en 1963. Elle est morte le 20 février 1972 à San Diego, en Californie, aux États-Unis.
Mileva Maric, née le 19 décembre 1875, a travaillé sur la théorie de la relativité avec son mari Albert Einstein. Elle est morte le 4 août 1948 à Zurich, en Suisse.
Alors, merci de nous avoir écoutés. Et voilà ce qu'on pouvait vous dire à propos du projet des femmes scientifiques au collège.
Et aussi, on peut retrouver les feuilles dans le couloir devant les salles de
physique.
Oui, de physique chimie.
Ok, et ben merci pour ces précisions. Alors effectivement, un oubli de la science, mais avec le patriarcat qui a régné en maître pendant autant d'années, forcément les femmes ont été mises de côté, que ce soit dans la science ou dans l'art hein, en général.
Malheureusement, oui.
Voilà, malheureusement, oui. Mais est-ce que vous connaissez d'autres scientifiques femmes autour de la table? Ouais,
Marie Curie.
Marie Curie, effectivement.
C'est une bonne réponse. La radioactivité...
Et ouais, ah, oui, et c'est son mari qui a récolté un petit peu plus les frais du truc, quoi.
Il y a aussi Nettie Stevens qui a découvert les chromosomes X et Y.
Yes, en fait, il y en a énormément. Oui. Il y a des. Oui, tu peux rajouter quelque chose.
En fait, par exemple, Albert Einstein, on lui attribue tous les mérites de la théorie de la relativité, alors qu'on a jamais entendu parler. Enfin, on entend très rarement parler de sa femme, et c'est dommage parce que. Enfin, elle a joué quand même un rôle important dans cette théorie. Donc,
Ouais, exactement. Il y a aussi pas mal de femmes qui ont travaillé pour des hommes qui se sont servis aussi, comme tu disais justement, avec Albert Einstein. Mais, et notamment dans le domaine de l'astrophysique. Elles ont découvert, par exemple, les spectres lumineux avec, vous voyez, le prisme de Newton. Est-ce que ça vous parle? La composition de la lumière. On obtient un arc-en-ciel quand on fait passer une lumière blanche à travers un prisme. On est d'accord là-dessus.
Oui.
La décomposition, c'est ce qui fait les arcs-en-ciel dans les gouttes d'eau. Ok. Eh ben, on peut, grâce à ces spectres lumineux, définir la composition d'une étoile. Par exemple, vous avez une étoile dans le ciel, qu'importe laquelle, hein, vous la prenez, vous passez au spectrographe cette étoile. Ça décompose la lumière et en fonction de l'épaisseur de chaque couleur, si vous avez plus de rouge, moins de bleu, un petit peu plus de vert, etc., on arrive à définir quelle molécule compose cette étoile. Parce que chaque molécule, en brûlant, produit des électrons spécifiques qui donnent une couleur spécifique. Et donc, on arrive à déterminer, c'est comme ça qu'on arrive à déterminer que telle étoile contient plus de nickel, telle étoile contient plus de tel truc. C'est incroyable. Et c'est les femmes qui ont découvert ça.
Ah oui. Voilà. Alors, merci, c'était très intéressant.
Eh oui, mais c'est bien d'avoir remis un peu le couvert et ces femmes à l'honneur. Donc, intéressez-vous un petit peu aux découvertes scientifiques et vous allez vous rendre compte, en fait, qu'il y a énormément de femmes qui sont derrière les hommes.
Qui ne sont pas forcément reconnues
et qui
pour
sont pas
qu'elles
reconnues
sont
du tout.
Fait. Alors, on va changer de sujet avec Enzo et qui va nous parler des JO 2024.
Magazine
sur Radar.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors moi, en effet, comme Elliot l'a dit, je vais parler des Jeux Olympiques. Je vais tout d'abord rappeler les origines de ces Jeux Olympiques. Ensuite, vous parler de la prochaine édition qui aura lieu à Paris en 2024. Et enfin, une question très importante qui a lieu dans le débat des Jeux Olympiques 2024. Est-ce que la Russie est-elle exclue des Jeux Olympiques ou pas? Alors, les premières traces écrites des Jeux Olympiques officiels remontent à moins 76 avant Jésus-Christ. Donc les premiers JO étaient organisés dans la ville d'Olympie, d'où leur nom, pour, en l'honneur de Zeus, tous les 4 ans, organisés par son fils Héraclès. C'est en Grèce que ça avait lieu, dans le Péloponnèse, qui est une région il y a environ 3000 ans. Alors, la prochaine édition va se dérouler en juillet, du 26 juillet 2024 au 11 août 2024. Il y a plusieurs endroits importants à retenir, c'est surtout les jardins du Trocadéro et la Seine, donc à côté de la Tour Eiffel pour la cérémonie d'ouverture, et la cérémonie de fermeture et les compétitions. La plupart des compétitions athlétiques auront lieu au Stade de France. Il y a en tout 32 sports qui sont répertoriés, dont le breakdance qui est une nouvelle discipline cette année.
Et qui vient de faire son entrée, c'est incroyable.
Voilà. Et en tout, donc 329 épreuves. Pour un total de 206 pays attendus et de 10 500 athlètes. Alors, le coût des travaux pour les Jeux Olympiques s'élève à 6,6 milliards d'euros, car il va falloir construire un centre aquatique à côté du Stade de France, une arène couverte pour 7 500 spectateurs, un village olympique aussi. Mais alors, la question se pose, c'est surtout de qu'est-ce qu'on va faire de ces infrastructures après les Jeux Olympiques. Ils sont toujours en train de réfléchir sur la question parce que ça a quand même un impact environnemental assez grand. Quand même. La billetterie donc sera ouverte à partir du 11 mai 2023, mais on peut déjà réserver son voyage sur le site avec un package voyage, sortie touristique à Paris, etc. On peut aussi se proposer en tant que volontaire pour accueillir les visiteurs, les athlètes, prendre soin d'eux pendant les JO. Pour ceci, il faut juste se rendre, faut déjà être majeur et se rendre sur le site www.paris-2024.org et faire sa candidature et on sera recontacté si on est choisi. Alors la question importante est l'exclusion de la Russie ou non. Alors ce mardi, le Comité international olympique, le CIO, a accepté la réintégration des athlètes russes dans les compétitions internationales. Cependant, pour les JO 2024 à Paris, il faut encore attendre la décision. Thomas Bach, le patron du CIO, dit, je cite, « Les sportifs concernés ne pourront concourir qu'en tant qu'athlètes individuels neutres, pour peu qu'ils ne soutiennent pas activement la guerre en Ukraine et ne soient pas sous contrat avec l'armée ou les agences de sécurité des deux pays. » Un mécontentement s'est déjà fait ressentir du côté des pays baltes, de l'Ukraine qui compte déjà, et de la Pologne qui compte déjà boycotter les JO 2024. Même chose du côté de la Russie, mais qui, elle, demande une réintégration entière de ses athlètes et dit qu'il s'agit d'une discrimination basée sur la nationalité. En tout cas, c'est un choix qui restera compliqué à prendre, je pense, pour le CIO. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur ces JO.
Eh ben, merci. Bravo pour cette chronique des plus complètes, tant de l'historique jusqu'à nos jours, en passant par l'ensemble des turpitudes qui peut graviter autour de cet événement sportif. Oh là là, j'ai du mal, j'ai faim en fait. Vas-y, prends le relais, c'est toi qui es présente en plus.
Alors c'était très intéressant, mais pourquoi ils ont réintégré les Russes et... pour la compétition, est-ce qu'il y a une raison?
C'était pour.
C'est juste une discussion.
Parce qu'on disait que c'était un peu les droits, c'était pas de leur faute qu'il y a la guerre en Ukraine, donc on les a quand même réintégrés au jeu, mais c'est sous les conditions.
Ouais,
et
puis,
conditions que,
et voilà. Puis c'est au CIO de trancher pour l'instant. On ne sait pas encore s'ils sont vraiment réintégrés. Ceci dit, au-delà de tout ça, on peut considérer que le sport n'a pas de frontières, même si ce sont des nations qui sont en compétition. Mais là, ça reste justement de la compétition sportive et ça ne devrait pas avoir de raison politique ou guerrière. Donc voilà, c'est... Au départ, quelque chose de fraternel. Hein. On est censé tous concourir dans l'esprit coubertin, le fameux. à savoir que l'important est de participer. Donc voilà. Il y a pas mal de précisions que tu apportes aussi. Je ne sais pas si on a trop le temps d'en parler, mais tu parlais du coût des travaux, ce qu'on appelle un peu les éléphants blancs, à savoir les fameux JO. À chaque fois, tous les 4 ans, on fabrique, on crée des infrastructures et puis c'est laissé à l'abandon par la suite. Et ça devient... Il y a d'ailleurs un site internet qui... comme en référence l'ensemble des ce qu'on appelle les éléphants blancs, c'est-à-dire des sites justement olympiques qui ont été laissés à l'abandon et pendant 10, 20, 30 ans, on les voit dépérir, les piscines complètement vides avec des arbres qui poussent dedans, voilà, ouais. Tous les milliards qu'on met dedans. Alors on nous dit voilà, il n'y a pas de sous pour les retraites, mais là il y a 6 milliards. Donc on peut en trouver hein, des sous, c'est pas de problème.
C'est vrai.
ouais. Et puis, pour la réservation, ça a l'air d'être un peu compliqué aussi. S'il y a des gens, on est tiré au sort pour savoir si on a le droit de dépenser nos sous pour aller voir les JO. C'est quand même assez balèze.
Bah, ils ont dit qu'il y avait, c'était annoncé comme beaucoup de personnes qui allaient venir. On avait tenté notre chance, mais on n'a pas été tiré au sort, malheureusement.
Ouais, c'est un peu la loterie, quoi.
Oui. Alors,
et puis on n'a pas forcément le choix dans les épreuves au final parce qu'on se dit bah tiens je vais essayer de choisir ça, je vais regarder l'athlétisme et tel truc et puis finalement on dit ouais vous avez été tiré au sort par contre vous êtes obligé de regarder le curling. Ah bon ?
Ça m'intéresse pas moi.
Ah dommage. Donc bon voilà, mais allez-y, faites votre choix en tout cas. On continue, on va pas parce que il y a encore plein de trucs à aller voir. Je t'en prie.
Il y a beaucoup de choses à dire malheureusement, mais on manque de temps. Alors on va partir du côté de Jean qui va nous parler de l'aéronautique française.
Magazine.
Sur le radar.
Bonsoir à tous. du coup, avec moi, on va prendre les cieux. Hein. Ça rejoint un peu avec les JO. Donc, qu'est-ce que l'aéronautique française ? L'aéronautique française, c'est des avions. Des avions que nous, on a créés, mais apparemment, c'est plus trop le cas maintenant. Apparemment, c'est européen avec Boeing et Airbus. Mais c'est pas grave parce qu'on les construit quand même. Par exemple, au Havre. Où on a, on construit les nacelles, en gros, c'est des espèces les parties des réacteurs, j'arrive pas trop à les placer précisément. Et à Saint-Pierre-les-Elbeufs, où on a Safran Aerosystème, j'ai rien trouvé là-dessus, malheureusement, désolé. Mais la France, d'abord, a été mère de l'aviation, et oui. Nombre de pilotes comme le Roland Garros ont permis de perfectionner les systèmes d'aviation et de combat aérien par la même occasion. Mais s'il y a bien une firme qui existe depuis 1929, c'est Dassault Aviation. On va dire que tous les avions français sortent de chez eux, du Rafale au Mirage 2000 jusqu'au Mirage F1, Super Étendard, Falcon X5, jet privé celui-là. On part un peu de la lignée militaire, mais c'est pas grave. Et du coup, devant tous, ils ont un petit nom d'assaut, mais sauf le Super Étendard qui a Breguet, Dassault Breguet. On y vient tout à l'heure. Et... du coup, voilà. Dassault a participé à la conception anglo-française du Concorde, premier avion civil à passer le mur du son, mais très coûteux en carburant et suite à un crash, il est retiré du service en 2003, si je ne me trompe pas. Et voilà, malheureusement, triste fin pour cet avion majestueux. Donc, ensuite, pour en revenir à Breguet. Donc, Dassault a racheté Breguet Aviation suite à une demande de l'État. Et oui, c'est l'État, pour une fois, qui demande ça. Parce que le bureau d'études de Breguet était apparemment très excellent. C'est pas moi qui le dis, c'est Wiki. Et puis plein de chaînes spécialisées là-dedans. Donc là, je vais entamer une partie que j'aime beaucoup, c'est celle de Dassault Militaire. Donc Dassault, c'est de la qualité. Donc niveau militaire, on voit des bêtes comme le Rafale, très récent, c'est notre dernier avion. Le Mirage 2000, toujours en service, ça fait bien 40 ans qu'il y est. Mirage F1, qui a été très reçu par les pays de l'OTAN. le super étendard qui a équipé pendant très longtemps la marine française, enfin l'aéronavale française, Mirage 3 qui lui aussi a été reçu par l'OTAN, Mirage 4 pareil, mais ça s'arrête malheureusement avec l'Alpha Jet qui est un avion d'entraînement, mais il a quand même été reçu par l'Allemagne, l'Alpha Jet, et maintenant la majorité des pays sont soit des F-35 américains ou F-18, ou F-16, ou F-15. Parce que bah, c'est l'Amérique avant tout. Mais voilà, après, c'est pas si mal. Moi, je trouve qu'on garde un peu nos technologies chez nous. Mais après, voilà, il y a quelques contrats pour le Rafale et c'est tout. Donc, le Rafale, qu'est-ce que c'est ? Déjà, c'est mon avion favori dans toute l'aéronautique confondue. C'est même apparemment le meilleur avion. Il a cloué le bec à son concurrent et quasi sosie, l'Eurofighter Typhoon, qui était un projet similaire, mais lui, européen. Donc le Rafale aussi devait être européen, mais tous les états-majors étaient totalement contre, parce que la France voulait un avion qui puisse atterrir sur des porte-avions, l'Allemagne voulait un avion gros, de même pour les Anglais, donc du coup nous on a dit on part et puis vous faites ce que vous voulez. Et du résultat, bah oui, c'est le meilleur, hein, l'Eurofighter n'est pas très sûr, c'est ce qui s'appelle un faux bimoteur. Donc lui, s'il y a un incendie dans un des moteurs, le deuxième prendra feu. Mais le Rafale, lui, n'a pas ce défaut. Il est très fiable. L'étude de cet avion est lancée au milieu des années 70 dans l'optique de dépasser F-15, F-16, F-18 et MiG-29 ou Su-27 américains et russes. L'avion démonstrateur, nommé Rafale A, vole le 4 juillet 1986 et le programme est lancé la même année. Donc après, il y a eu trois versions, donc la C, la B et la M, qui volent dès 91. Et cet avion doit aussi être embarqué, mais c'est pas joué d'avance, car la marine voulait des avions américains pour cette tâche. Mais le Premier ministre Jacques Chirac a dit, le Rafale sera pour l'armée de l'air et la marine nationale. Donc dès 92, on simule décollage et atterrissage sur porte-avions, mais aussi depuis une base au sol. Et après, j'ai des vrais avantages sur le porte-avions à l'époque du Clémenceau. Ah mais on me speed, donc du coup, je speed, je fais du rap.
Alors merci pour cette chronique. Moi, perso, je n'y connais rien, mais on manque de temps à cause de la sonnerie.
Ouais, on pourrait encore en dire sur les avions. C'est passionnant, en tout cas, comme sujet. Est-ce qu'on prend le temps vraiment vite fait de faire la chronique ou pas ? Qu'est-ce qu'on dit, Madame Friboulet ? On dit oui, on dit non, on dit qu'on y va ? Alors, ou sinon, ouais. Vous venez dans 15 jours que ça nous dit. Et puis, à ce moment-là, vous avez le temps de finir la fin qui était improvisée et que ceci et que cela. Ça marche. Voilà. On va faire comme ça. Merci à tous pour la qualité de vos chroniques qui est de plus en plus meilleure. Bravo. Merci à toi.
Et merci de nous avoir suivis.
Ouais, exactement. On se retrouve, quant à nous, en direct demain midi avec le... Comment ça s'appelle ? Je vais y arriver. Le lycée Maupassant Descartes avec la cafetière à midi pile. Et puis d'ici là, passez une excellente journée à l'écoute des programmes de Radar. À bientôt. Merci encore pour tout le monde. Et puis des bisous. Salut.
Bisous.
Le nom d'émission qui a été choisi, Magazine.
Je sais plus ce qu'il faut dire.
Magazine.
Ça va aller, ça va passer.
Je vais pas y arriver.
Le magazine du collège André Gide.